Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Sur RDIWA 101.7 et 107.5 FM, sur un bord de route aux portes du Haut-Diwa.
Salut Fabien.
Ça va?
Bah ouais, toi?
Attends, mets-toi sur le rond-point par là parce que c'est toujours dangereux ces zones de route.
Ouais.
Ça va?
Ouais, ça va.
Bon.
Fabien Lombard, on est sur le rond-point de Rokubo.
Oui.
Jean Sac, pour le dernier rond-point décoré par ce syndicat de la Clairette.
Alors c'est pas le dernier, mais c'est le premier du Haut-Diwa, on va dire. Puisque c'était une stratégie autour de l'onotourisme et d'aménager effectivement tous les espaces autour de la Clairette, hein, pour que la vallée transpire la Clairette. Et là on a commencé par Cré. On est remonté jusqu'à Die et il nous manquait le Haut-Diwa. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est à Rokubo pour une thématique plutôt Clairette de Die et brebis. Et puis après il y aura Châtillon-Diwa et Solor pour la suite. Donc c'est pas le dernier.
Ah oui, d'accord. Voilà ce que j'allais dire. Ils sont où les autres ronds-points plus haut dans le Diwa? Parce qu'il y en a. Il y a de l'appellation. On va finalement jusqu'à Poyol.
Poyol et même Luc-en-Diwa, même si on n'a pas de vignes aujourd'hui plantées sur Luc, Luc-en-Diwa fait partie de l'appellation.
Et donc les prochains ronds-points, donc celui de Solor, c'est le tout petit?
Oui, c'est un aménagement qui est sur le bord de route. On est encore sur un travail qui est en construction. Donc c'est celui-là qui sera peut-être en dernier en fait réalisé. Et après, on attend aussi Châtillon-Diwa. Dans leur entrée de village, il y a une grosse réflexion. Et donc on va s'insérer dans leur réflexion pour marquer, et là plus la thématique des vins tranquilles de Châtillon, des vins rouges et vins blancs et rosés.
Est-ce que tu pourrais nous refaire un peu l'historique de pourquoi est-ce que vous êtes parti sur cette idée-là?
Alors l'idée était qu'il y avait des aménagements qui étaient un peu bruts, hein, qui seront point. Il y avait juste une ou deux tontes par an. Et c'est vrai qu'on s'est dit qu'on pouvait faire mieux. Et qu'on
celui-là
pouvait,
même, on adorait rouler dessus. Hein.
C'est vrai que Rokubo, bon, on peut dire qu'il avait vieilli, quoi. Hein, était utilisé. Les arbres n'étaient pas forcément d'essence locale. Donc il y avait un travail à faire. Quand on a proposé le projet à la commune, ils ont tout de suite dit, bah oui, banco, nous, ça nous intéresse parce qu'on va le valoriser, on va valoriser l'entrée du village. Et puis donc la thématique Clairette, forcément ici, ça avait un sens. Et donc on a travaillé avec le même artiste, Monsieur Chipon, hein, qui était un Ardéchois, qui était éleveur et qui fait des sculptures qui ont vraiment une âme, qui est présent là aujourd'hui aussi pour l'installation de ces sculptures. Et donc on a travaillé avec le même paysagiste, hein, puisque du coup il y avait cet esprit qui était aussi là, avec donc Valdrom Paysage.
Alors, à quel moment vous aviez eu envie donc de mettre en avant la Clairette et sur ces ronds-points?
Alors ça a commencé il y a 7-8 ans, quand on a commencé à réfléchir comment on pouvait présenter la Clairette, mais pas que par des panneaux 4x3, c'était pas l'intérêt. L'intérêt c'était d'être au cœur en fait de l'appellation, de marquer notre passage et notre vie, mais sans forcément afficher des choses ostentatoires. Et l'idée était de travailler autour de là.
Pas de marque, pas de pub ostentatoire.
Pas de marque, pas de pub direct, ouais, pas voilà. De marquer en gros Clairette d'Audi, c'était pas ça l'idée. Donc c'est pour ça qu'on est là sur une appropriation du territoire, autour de la sculpture, autour de l'art, autour du végétal aussi, parce que c'est important, qui marque donc qu'on est dans un territoire viticole, mais sans forcément un affichage très, très violent et très visible, parce qu'on veut aussi préserver nos paysages.
Et c'est quelque chose qui se faisait ailleurs, dans d'autres appellations, où vous avez eu l'idée?
Alors ça se voit dans d'autres appellations, effectivement, les aménagements de bord de rond-point, de bord de route. Là, l'originalité qu'on a, c'est que c'est sur une vallée entière. On part de Cré, on remonte maintenant donc jusqu'à Rokubo, et c'est ce cheminement qui est important en fait pour nous, et qui dans son originalité c'est un projet d'ensemble qui est assez, assez grand et que d'autres appellations n'ont pas fait.
Est-ce que vous en mesurez l'impact depuis que ces ronds-points fleurissent?
Alors, toujours indirectement, c'est toujours délicat, mais en tout cas, on voit de nombreuses personnes qui s'arrêtent prendre des photos. Donc, on se dit, notamment sur le rond-point d'Audi, que ça fonctionne assez bien, en tout cas en termes d'image. C'est souvent aussi mis en avant dans les communications, notamment du département ou d'autres entreprises. Donc, ça veut dire que ça rejoint aussi l'image générale de la vallée.
Et est-ce que tu peux nous rappeler le montage financier, comment vous avez pu mettre à bien ce projet-là? Le syndicat de la Clairette.
Alors le syndicat était donc le moteur initiateur. On a, nous, apporté Vigneron 20% du budget global de ces aménagements. C'est voilà ce qu'on pensait être notre part sur ce projet. Et ensuite, on est allé voir les collectivités, l'État, et donc à chacun des montages un peu différents en fonction des ronds-points et des envies de chaque commune, mais globalement, donc la commune, les intercommunalités, le département, la région et l'Europe, notamment au travers des programmes leaders, sont venus abonder le programme.
Alors, ça veut dire que chaque commune pouvait... était invité, on va dire, à participer à son rond-point. Ça a toujours été évident, ça ?
On a toujours fait, en fait, avec les spécificités locales. Donc, il y a un projet d'ensemble, mais des adaptations locales. Par exemple, sur Die, il y avait la nécessité de garder la vigne, de garder ses côtés. Donc, on a travaillé. Il y avait l'arrosage, que d'autres n'ont pas. À chaque fois, on a essayé de faciliter aussi le travail d'entretien pour que les communes qui, après, en avaient l'entretien, soient facilitées. Donc, en fonction des équipes techniques qu'on a rencontrées pour faciliter les largeurs de tonte, par exemple, des outils. Donc, tout a été pensé pour adapter au mieux à chaque commune. Et après, effectivement, en fonction de leurs moyens, chacun a mis au pot. Et ensuite, on est allé chercher les autres collectivités pour compléter. Et à chaque fois, le budget a été monté, parfois un peu lentement, mais on y est arrivé au bout.
Voilà, par exemple, parlons de ce rond-point à Recoubeau-Jansac. Combien de temps à partir du moment où on se dit « on le fait » et puis après, les adaptations, les différents aménagements possibles, la recherche de financement ?
Là, on a mis à peu près 2 ans sur ce projet, entre la présentation du projet aux communes. Ensuite, il y a eu aussi les élections, donc il y a eu un changement. Alors ici, il n'y a pas eu de changement, mais il y avait quand même une phase d'élection, donc il fallait revalider derrière le projet. Les financements donc, ont été trouvés dans l'année 2021. Et la réalisation la plus longue à mettre en place a été surtout la réalisation des statuts, puisque M. Chipon est tout seul. Et donc, on lui a commandé donc, tout le rond-point, et là, ça a mis quelques mois pour arriver. Mais sinon, le montage financier, c'est un projet qui met 2 ans à peu près à mûrir.
Je voudrais que tu nous rappelles un peu justement toutes les scènes que vous avez mises en place et peut-être nous expliquer un petit peu pourquoi tel rond-point c'est ce choix-là, tel rond-point ce choix-là.
Alors on commence le cheminement en fait de la clairette à partir de Cré où c'est la préparation du terrain et la plantation de la vigne. On arrive après à Pierrot-la-Classe où on est sur les travaux en verre, donc la taille et le relevage de la vigne pour aller jusqu'au moment un peu fort qui est la vendange à Saillant. Ensuite, il y a un moment de vinification qui est à la maison de la Clairette à Verchenis. Donc là, on est sur le domaine privé, puisqu'on n'est pas sur la commune, mais la commune a quand même participé sur l'aménagement avec le remuage. Donc une étape importante dans les vins effervescents. Et on arrive ensuite à Die, la reboule, la fête des vendanges, la fin des vendanges, donc le moment festif. Donc ça c'était le premier cheminement. Et ensuite, au-delà de Die, donc sur le rond-point de Recoubeau-Jansac, on est sur une thématique qui est intéressante parce que ça rejoint à la fois des travaux du syndicat sur le pâturage dans les vignes des brebis qu'on avait mené pour valider en fait la possibilité de le faire chez nous, et aussi l'histoire un peu de la commune de Recoubeau avec l'élevage qui est quand même bien présent auprès donc notamment de Monsieur Monge et maintenant aussi auprès du premier adjoint de la commune. Donc ça a été une rencontre entre les vignerons et l'élevage. Et ça a du sens aussi pour nous, cette thématique clairette et brebis.
Alors, Châtillon, ce sera les vins tranquilles ?
Clairette autour des vins tranquilles, et puis le travail aussi de commercialisation des vins de Châtillon sur le Trièves. Donc, il y a toute cette thématique qui est travaillée avec le passage du col de Menet, notamment. En tout cas, on va essayer de le symboliser comme cela. Et puis après, plutôt au sens large sur Solor, la biodiversité que l'on peut retrouver dans les vignes et comment la viticulture participe aussi à cette biodiversité.
On peut faire un petit focus là-dessus, la biodiversité dans les vignes, c'est souvent critiqué. Et puis tu parlais tout à l'heure des pâturages.
Alors sur la biodiversité dans les vignes, déjà on est quand même autour de 30% en viticulture biologique, donc ça fait partie des vignobles les plus importants en termes de développement. Il y a un projet autour un projet pilote dans la vallée de la Gervanne sur la pose de nichoirs chauve-souris et de nichoirs mésange. Donc ce projet, il a 3 ans maintenant, il arrive à maturité, on a les premiers résultats d'occupation qui sont intéressants, puisqu'on a 25% des nichoirs qui sont occupés par des mésanges maintenant, en moyenne sur les vignes. Et ce projet va être étendu dans l'ensemble de l'appellation. Et donc, on a l'objectif de planter des haies dans les vignes, autour des vignes, et de mettre aussi ces nichoirs pour améliorer la biodiversité au milieu des vignes.
Et sur la partie pâturage dans les vignes ?
Alors, sur le pâturage dans les vignes, donc on a validé avec le FIBEL notamment une étude comme quoi c'était possible de faire pâturer les brebis dans les vignes. Et notamment, ce qu'on regardait, c'est que les quantités de cuivre qu'il pouvait y avoir du fait de la viticulture biologique n'influençaient pas les brebis. Donc ça, on l'a validé, c'est possible. Donc maintenant,
elle l'ingère pas, c'est ça ?
Elle l'ingère, mais ça arrive à un seuil où la brebis le supporte. C'est, en fait, c'était ça qu'il fallait vérifier, qu'il n'y ait pas trop de cuivre sur le pâturage lié à l'activité donc, de la viticulture. Ça a été validé, donc maintenant c'est une pratique qui est possible. Après, la difficulté, c'est que les brebis pâturent surtout l'hiver et on en a besoin surtout nous au printemps. Donc maintenant, il va peut-être falloir adapter un petit peu le vignoble avec soit des vignes un peu plus hautes pour que les brebis passent dessous, soit avec des brebis qui sont un peu plus petites. Mais voilà, il y a tout un travail à faire autour de ça. Mais en tout cas, la pratique est en développement, et notamment sur le bas de la vallée aujourd'hui, où il y a des vignes donc, qui sont pâturées l'hiver par des éleveurs. Donc là, c'est plutôt des éleveurs qui viennent voir les vignerons, plutôt que des vignerons qui sont soi-même éleveurs.
Et donc là, on mesure aussi la partie intrant, finalement.
Il y a la partie, fumure naturelle de la brebis. Il y a l'entretien. Les brebis mangent, par exemple, très bien les garances, le lierre, qui peut être accroché aux vignes. Effectivement, c'est la rencontre du végétal et de l'animal. C'est quand même ça a un sens pour les vignerons d'avoir cette présence animale dans les vignes.
Fabien Lombard, pour le syndicat de la Clairette de Die, des vins du Diois et des Créments également. Après ces ronds-points, c'est quoi vos grands projets ?
Alors pour l'instant, on va déjà finir les trois aménagements. Après, en projet, on a toujours le développement du label vignoble et découverte en termes de tourisme, de nos tourismes. Et donc ça fait partie du coup d'après. C'est que pendant 3 ans, on n'a pas réussi à faire grand-chose avec la période Covid. Et là maintenant, on va mettre le paquet sur vignoble et découverte.
Bah merci. Hein.
Merci.
Pierre-Louis Chipon, bonjour à vous. Vous êtes le sculpteur de ces ronds-points pour le syndicat de la Clairette.
Oui.
Vous n'êtes pas à votre premier rond-point.
Ce n'est pas mon premier rond-point. J'en ai fait pas mal, effectivement, dans la vallée de la Drôme. Le premier rond-point que j'ai fait dans la vallée de la Drôme, c'était Saillant. Et c'était déjà sur le thème de la Clairette. Et c'était le seul qui y était. Et le deuxième que j'ai fait après était à Cray. C'était des chèvres pour le syndicat du Picodon. Donc j'ai fait le syndicat de la Clairette et syndicat du Picodon. Et c'est seulement plus tard que le syndicat de la Clairette m'a demandé de faire la roue de la Clairette. Voilà.
Vous êtes de l'Ardèche, on m'a dit.
Oui, je suis de l'Ardèche, du col de l'Escrinet, où j'étais éleveur de chèvres, avant de faire les sculptures. Et c'est parce que j'ai fait une chèvre en fer au col de l'Escrinet, la chèvre du col, que j'ai commencé cette activité.
Alors, comment vous êtes devenu sculpteur ?
En faisant la chèvre de l'Escrinet, parce que j'étais éleveur de chèvres, qui indiquait ma ferme pour les gens.
Voilà.
Et alors cette chèvre du col est devenue un peu l'emblème du coin. Et un jour je l'ai vendue. Et le fait de l'avoir vendue, les gens ont compris que c'était pas une chèvre qui était là depuis toujours, qu'elle avait été faite par moi. Et du coup les gens sont venus me demander, en plus des fromages, des sculptures. Et j'en ai fait tellement de sculptures que j'ai arrêté le fromage.
Mais vous aviez une base en sculpture ?
Alors, j'avais une base, oui. Disons que la sculpture m'avait toujours intéressé. Et comme beaucoup de gens, je pratiquais en amateur, comme ça, pour le plaisir. Et j'avais fréquenté une fac d'art plastique juste pour les cours de sculpture qu'il y avait à l'époque où j'étais étudiant.
Comment devient-on sculpteur de rond-point ?
Alors ça, c'était pas ma destinée.
On n'imagine pas au départ.
Non, c'est pas ma destinée, je pense. Mais je suis devenu sculpteur de rond-point par le rond-point de Saillant. C'est celui-ci qui a été le premier. Et à l'époque, je me rappelle que le paysagiste qui faisait le rond-point de Saillant m'avait demandé de leur proposer un projet à la mairie de Saillant. Parce qu'il voulait un projet, parce qu'il trouvait que donc, mes sculptures, assez simples, étaient assez discrètes dans le paysage. Il ne voulait pas, il fallait pas que c'est un côté publicitaire, tape à l'œil, ou genre une bouteille géante qui clignote, quoi. Mais quelque chose qui représente la vigne, mais qui soit intégré au paysage.
Mais, ça veut dire qu'il vous connaissait quand même déjà, vous aviez
Il me connaissait, lui, il me connaissait par la chèvre. Parce que c'était un paysagiste qui travaillait sur l'Ardèche et la Drôme.
Donc en fait, au départ, c'était quelque chose d'un peu, j'allais dire, une activité un peu intime. C'est les gens qui sont autour de vous, qui vous connaissent, qui éventuellement vous commandent des sculptures.
Au départ, ça a commencé petit, mais ça a mis du temps, puisque j'ai commencé la chèvre, je l'ai faite en 1986. Et donc après, vous voyez, j'ai commencé à faire ça à plein temps, c'est-à-dire j'ai arrêté les chèvres en 2000. Donc c'est à partir de l'an 2000 que je suis devenu sculpteur et que ça s'est développé. Voilà, mais petit à petit, tout doucement.
Parlez-nous un peu de vos techniques de sculpture.
Alors au départ, je sculptais qu'avec de la récupération de matériel agricole. Donc c'est de la soudure. L'avantage de la soudure, c'est très facile. J'assemble le métal et on soude deux pièces ensemble et c'est fini, quoi. Il n'y a pas beaucoup de techniques à avoir et on a beaucoup de liberté pour... Et puis maintenant, j'utilise toujours des pièces de récupération. Là, on voit par exemple, les moutons sont faits avec une pièce agricole qui s'appelle le rond. Un disque de cover crop, c'est un appareil agricole qui permet de travailler la terre.
Entre les ceps de vigne d'ailleurs.
Alors pas entre, non, pas entre les ceps de vigne. Non, parce que entre les ceps de vigne, c'est le griffon. C'est un appareil qui est beaucoup plus petit et ça ne m'aurait pas permis. Je ne peux pas me servir des dents de griffon pour faire un gros personnage, par exemple. Mais maintenant j'utilise toute la ferraille. C'est-à-dire que petit à petit j'ai évolué. Et par exemple, si vous voyez la femme, il y a aussi bien de la récupération que de la ferraille neuve, il y a de tout, quoi. Pour moi, toute la ferraille est bonne, c'est un matériau. Ancien, des pièces de récup, j'aime bien, mais si je prends de la ferraille neuve, je la travaille un peu comme je veux, comme de l'argile à la limite. Hein. Voilà, donc tout ce qui est ferraille et qui soude, je l'utilise.
Donc ferraille, soudure, pas de pliure, pas de...
Alors
pas
si, je plie, mais je plie en force. C'est-à-dire, ma technique pour plier, c'est de prendre un marteau ou une masse et de taper dessus. Je tape beaucoup à la masse, hein. Je ne suis pas dans la sculpture... de salon un peu délicate, je fais des gros trucs qui se mettent dehors et je les manipule violemment. Je ne soude pas parce
mais
que...
Pourquoi tant de méchanceté ?
T'es pas de la méchanceté parce que regardez, en manipulant fort violemment la ferraille, on fait des personnages qui ont plutôt une certaine douceur.
C'est vrai qu'on se dit, ça c'est vrai, ils sont, en tout cas ils sont calmes, on sent pas qu'ils ont été torturés.
Souvent les sculptures en ferraille ont un côté guerrier parce que la ferraille c'est très agressif. Oui. Donc en mettant la ferraille, en tapant dessus, je la rends plus douce, je l'adoucis, voilà.
Vous vivez donc maintenant pleinement de ça, est-ce que c'est, oui. Combien de temps on met pour mettre sur pied un rond-point comme celui-ci à Rokubo, Jean-Sac?
Alors là, c'est difficile à dire parce que je compte pas le travail et puis je fais plusieurs choses en même temps, quoi. Donc je sais pas toujours exactement le temps que j'y ai passé. Disons qu'il me faut 15 jours pour faire un personnage, par exemple, là, à peu près. Hein. Une semaine pour un mouton et 15 jours pour un personnage.
Et vous partez sur de quoi ? Par exemple, la commande, c'était effectivement qu'il y a un peu de pastoralisme. Comment ça se passe pour comprendre comment vous...
Alors, on discute et puis avec le paysagiste pour savoir ce que je vais mettre comme personnage.
C'est-à-dire la quantité, par exemple ?
Oui, la quantité. Puis si c'est une femme, un homme, qu'est-ce que... Par exemple, pour Vaillant, j'ai fait des femmes qui sont un peu... Pas en mini-jupe, mais presque, parce que... C'est pas très agricole, mais comme c'était le thème, c'était la vendange, c'était pour montrer les citadins qui arrivent à la campagne, quoi, par exemple. Voilà. Alors, on décide un peu, en gros, du thème et comment ça va être. Et après, je fais un croquis, un dessin, et je propose le dessin, voilà. Donc, et à partir du croquis, je fais la sculpture, après.
Et alors, elles sont fabriquées chez vous ? Vous avez maintenant un atelier et non plus une bergerie ?
Alors, c'est ma bergerie qui est devenue mon atelier, parce que j'ai plus de bergerie. Voilà, donc je l'ai transformée en atelier. C'est un gros avantage, c'est que j'avais une grande bergerie, parce que pour les chèvres au col d'Escrinet, il faut qu'elles puissent être à l'intérieur confortablement en hiver. Et du coup, ça me fait un grand atelier. Et comme la ferraille, il en faut beaucoup pour pouvoir choisir ce qu'on veut, je peux en mettre partout. J'ai un grand espace de travail.
Et vous êtes seul ?
Oui, je suis seul. Je ne peux pas travailler en équipe ou à plusieurs.
Pourquoi ?
Parce que, comme j'étais éleveur, je ne suis pas capable de travailler à plusieurs. Ça me perturbe si je ne suis pas seul à faire mon boulot. Dès que quelqu'un vient, je peux discuter, parler et tout, mais je ne travaille plus. Donc pour travailler, je travaille seul et je ne peux pas... On m'a souvent demandé de venir, si je pouvais, des gens qui voulaient travailler avec moi ou faire un projet ensemble. Je ne peux pas. Je suis vraiment inapte au travail en équipe. Voilà.
C'est quoi vos prochains projets ? Où est-ce qu'on peut vous voir ? En gros, grosso modo, là, maintenant, c'est le rond-point qui vous occupe le plus.
Non, c'est à moitié. C'est-à-dire les ronds-points, pour les collectivités, et 50% c'est des particuliers qui viennent m'acheter des sculptures plus petites plus animalières en règle générale, hein, comme des rapaces, des oiseaux, des coqs ou des animaux, plein d'animaux, hein, des chats, des chiens, des chevaux. Enfin, j'aime bien faire des animaux, je suis très animalier dans ce que je fabrique. Et beaucoup de particuliers m'achètent des animaux. En général, en Ardèche, c'est parce qu'ils ont retapé une belle maison pour conclure la résidence secondaire ou leur nouvelle résidence principale, puis plein de gens sont en train d'émigrer de la ville.
Et toujours sur commande, ou alors vous faites des séries comme ça d'animaux?
Alors, je ne fais pas de séries. Maintenant, du coup, c'est toujours sur commande. Alors, ça m'arrive, si je n'ai pas de commande, de créer des nouveaux animaux, tout ça, que j'expose et que les gens peuvent m'acheter s'ils viennent visiter. Mais pour l'instant, je suis un peu débordé par les commandes, donc je fais mes commandes.
Alors, est-ce qu'on peut quand même vous faire de la pub?
Bien sûr, bien sûr.
Même si vous êtes débordé.
Je suis débordé par les commandes, mais bon, après, j'étale dans le temps, voilà. Mais la pub est toujours la bienvenue.
Alors donc, tous vos éléments de com, un site internet
Alors non, je suis désolé, je suis complètement archaïque. J'ai pas de... Les gens qui veulent travailler avec moi, ou enfin qui m'acheter, il faut venir me voir au col de l'Escrinet, en Ardèche. Alors, ça est arrivé que des gens me commandent, essayent de commander par Internet et tout, mais d'abord, je n'aime pas, et j'ai du mal à travailler pour des gens que je n'ai pas vus. Donc, si vous voulez commander, venez me voir, discutez avec moi. Ça marche comme ça. J'ai besoin de voir les gens et de discuter avec eux, de voir ce qu'ils veulent. Et puis, si on se met d'accord, si on est en accord sur ce qu'on veut faire. Je ne peux pas travailler. Alors, site internet, j'en avais un avec une association d'artistes. On avait fait un site où on était plusieurs. Mais comme personne ne s'en occupait bien, on l'a laissé partir en déshérence. Non, je ne suis pas du tout branché toutes les nouvelles technologies. Donc,
cette relation client-là, c'est important de passer un temps vraiment pour...
Ouais, de discuter, c'est important.
On discute de quoi d'ailleurs?
Alors on discute de ce que j'ai fait, de la sculpture qu'ils veulent, et puis un peu de tout. Par exemple, le dernier client à qui j'ai vendu une sculpture avant le rond-point, là, c'était un randonneur à vélo. Alors moi aussi, je fais de la randonnée en vélo. Ben, on a discuté de randonnée à vélo et on a conclu un truc. On était très contents. Tout va bien et voilà. Donc, ça peut être très variable. Hein.
Pour qu'il y ait une partie de la personnalité du client, j'allais dire, dans l'œuvre.
Ouais. Il faut que j'aie compris un peu comment il est, comment il voit les choses. Et puis, qu'il y ait une relation qui s'instaure. Et ça me fait... Et voilà, on démarre comme ça. Donc, j'ai vraiment besoin du contact des gens avant.
Est-ce que c'est indiscret de demander combien ça coûte une pièce comme, j'allais dire, comme la femme dont on parlait tout à l'heure?
La femme, là, qui est assez grande, hein, quand même, qui fait 2,10 m, il faut compter 3 000 euros. Hein, il faut compter entre 1 000 et 3 000 euros pour mes sculptures.
Et alors là-dedans, c'est quoi la part matière et comment est-ce que vous vivez votre art?
Je vis de mon art, oui. Alors la part matière est en train d'augmenter, malheureusement, parce que les prix flambent. Mais globalement, la ferraille reste un matériau accessible. Hein. Donc c'est vraiment du travail. Hein. C'est ma création. Et puis bon, après, il y a le transport, il y a la soudure. Mais la part matière est moins importante que la part création.
Et donc là, on voit des ouvriers qui travaillent donc sur la pose de ces pièces. Elles sont faites intégralement chez vous?
Oui.
Ou elles sont remontées un peu ici?
Alors, elles sont faites intégralement chez moi. Je les fais. Je les mets en scène chez moi pour voir comment ça va à peu près. Et après, je leur fournis les cotes pour mettre les platines. Vous voyez, pas en ferraille, mais en béton, puisqu'il y a une socle en béton sur lequel on les fixe. Donc moi, après, je leur donne le plan avec les dimensions. Et le responsable de Val Drôme Paysage, avec qui j'ai travaillé pour toute la vallée de la Drôme, fait la mise en place avec un plan qu'ils doivent l'avoir d'ailleurs pour regarder un plan comment dire, une animation 3D quoi, un plan 3D, et ils font la mise en place avec ça, voilà. Donc moi quand elle arrive, elle est finie, elle est platine, il suffit de la fixer, et j'ai fourni les dimensions pour chaque pièce pour faire le socle en béton nécessaire à la fixation.
Et est-ce que vous avez un regard ou une complicité avec Val Drôme Paysage justement pour la suite de l'habillage? Alors, dans quel cadre elles sont intégrées, ces sculptures ?
Alors, non, je dirais que moi, je fais le projet sculpture. Et après, pour la partie paysagère, je dois dire que c'est Valdrome qui fait ça, ils font ça eux-mêmes et j'interviens pas. Non, sur la partie paysagère, j'interviens pas du tout.
Et vous n'avez pas une relation comme ça pour savoir comment vont s'intégrer l'un et l'autre ensemble ?
Si, on en discute, mais après, ils font ce qu'ils veulent quand même. Hein.
Ça vous a toujours plu, ce qu'ils ont fait après ?
Oui, alors moi personnellement, ce que j'aime, c'est que mes sculptures se voient le plus possible.
Eh oui.
Donc, j'aime bien que faut que ce soit paysager, hein, parce que si c'est pas paysager, ça marche pas, hein, okay. ça fait
changer. Oui, ça ne veut pas rester.
Il faut, c'est très très important, donc moi je trouve que Valdrome Paysage travaille très bien. Après, il ne faut pas laisser la végétation prendre le dessus, parce que par exemple, justement à Oust, où le rond-point était bien aménagé, ils avaient fait la rivière et tout, la végétation pousse beaucoup et finit par cacher les sculptures. Et là, il faudrait tailler un peu. Mais là, ce n'est pas la responsabilité de Valdrome Paysage, c'est... Après, c'est les mairies qui doivent entretenir le rond-point de manière à ce qu'il reste dans l'état où le paysagiste et moi avons décidé au départ. Alors, il faut un petit peu d'entretien. Donc, je conseillerais aux communes de ne pas hésiter à bien tailler la végétation quand elle devient trop grande. Voilà.
Pour respecter en tout cas votre travail.
Ouais, pour permettre une bonne visibilité du travail pour tout le monde, hein, aussi bien pour la commune que pour moi, puisque ça permet de le voir, et puis pour la commune qui a payé pour la voir, de le montrer.
Il y a des différences, enfin, il y a certaines ferrailles qui prennent ce côté rouille, c'est volontaire ou... Et puis j'ai envie de questionner du coup la durée dans le temps d'une œuvre comme celle-ci.
Alors la durée dans le temps, elle peut être vraiment très très importante, hein, parce que ça rouille pas, c'est une petite rouille qui prend dessus, mais après, si vous mettez ferraille en terre, qu'elle soit abîmée par l'acidité du sol, elle va rester vraiment des années, des années, des années sans problème. Après, les teintes, ça vient du fait que le métal était neuf, au départ, et donc la rouille prenant les teintes, la rouille neuve a une teinte très dorée, et puis petit à petit ça va devenir plus foncé, puis vous voyez, elle prend pas à la même vitesse de partout, donc c'est très joli, mais
c'est le côté joli, ouais, hein.
Ça va disparaître malheureusement, parce qu'après ça va devenir uniformément rouillé, parce que le métal, sa destination c'est la rouille quand même, donc ça finira rouillé quand même. Et bon, moi j'estime que la rouille, c'est aussi la patine du fer, donc c'est normal d'avoir cette couleur rouille, qui est naturelle, hein, qui est l'oxyde de fer, voilà. Donc là, malheureusement, on ne pourra pas garder ce côté brillant, un peu feuille de vigne à l'automne, il va disparaître, ce qui est bien dommage. Mais c'est comme ça.
Pierre-Louis Chipon, merci pour cette présentation, et on vous souhaite plein de belles sculptures encore, et plein de beaux ronds-points.
Eh bien merci bien, moi aussi.
Loïc Chazalette, bonjour. Valdrome Paysage, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'entreprise ?
Donc bonjour, donc l'entreprise Valdrome Paysage, donc c'est une entreprise de paysage qui fait de la conception, c'est-à-dire les plans, de la création de jardin, donc tout ce qui est en dehors de la maison, dans le jardin on fait, quoi. Donc ça va de terrassement, maçonnerie, pavage, dallage, fontaine, bassin... arrosage, gazon et surtout plantation aussi, quoi, le cœur du métier quand même. Mais on fait tout pour mettre en valeur le végétal, quoi, dans les jardins. Et puis après, toute une partie entretien. Donc maintenir un espace créé, voilà, bien taillé pour que les plantes ne se fassent pas dominer par une qui va pousser plus. Voilà, c'est le travail du paysagiste, quoi.
Mais il y a une partie quand même aussi conception, j'allais dire aménagement, beauté. Là, on parle par exemple d'un rond-point.
Ah bah le tout ce qui est la conception déjà du, c'est harmoniser les différentes pièces extérieures. On peut appeler ça des pièces, hein, une terrasse, un parking, créer des cheminements entre. Et puis que le tout soit esthétique à l'œil, fonctionnel aussi quand même. Parce que ce qui est beau des fois pas pratique, donc on essaye de que ça aille à tout le monde, quoi. Donc voilà, après le rond-point, certes, lui, il est moins fonctionnel, mais voilà, il faut que ça soit esthétique. Et puis
je posais tout à l'heure la question de l'intégration au sculpteur. Voilà, vous avez là du coup des pièces assez imposantes sur ce rond-point de Rokubo. Quel va être votre travail? Qu'est-ce que vous voulez mettre comme végétation avec ces sculptures?
Donc du coup là, il y aura très très peu de végétation sur ce rond-point. Ça va se limiter à un massif là de ce côté. Bon, vous pouvez pas voir, mais
du coup, quand on arrive de Luc.
Voilà. Et donc en fait, c'est tous les ronds-points du Val de Drôme en lien avec la Clairette ont été faits de manière à ce qu'il y ait très très peu d'entretien, limité à de la tonte et une taille par an, parce que bah, les mairies ont déjà beaucoup de choses à faire. donc voilà.
Et parce que vous en assurez plus l'entretien après?
Non, donc tout rond-point sur départemental. L'entretien est assuré par la DIR. Si la commune souhaite aménager, voilà, faire un peu plus que ce que le département avait fait au début, voilà, après, il y a des conventions qui sont établies entre le département et la commune. Et donc après, voilà, donc il y a le syndicat est propriétaire en partie, l'entretien est pour la commune. Et quand même, le foncier est au département, voilà. Donc c'est un peu compliqué, mais...
on se pose souvent la question des essences aussi sur les ronds-points. Parfois, on se dit, mais enfin, c'est incroyable de planter ça ici. Est-ce que ça, c'est des commandes qu'on vous fait? On vous dit, bah, on voudrait tel arbre, telle plante. Quelle place vous arrivez à avoir, vous, pour placer, peut-être, pour, j'allais dire... susciter ou plutôt des plantes du coin, enfin.
Ouais, donc ça c'est, on va dire, c'est question de style, on va dire, quand même. Nous on estime qu'on est à midi moins quart, donc vraiment trop au sud, surtout quand on passe dans le Diwa à l'Oriole. Il y a certaines, enfin voilà, il suffit de connaître ces plantes. Certaines plantes résistent à l'Oriole, qu'ici voilà, c'est le climat est beaucoup plus rude. Ce matin, j'avais 3 degrés à Oust, ici il faisait moins 2, voilà, c'est pas le même climat. Et donc nous, on a un style plutôt champêtre que, voilà, sud, olivier, voilà. Après, il suffit de connaître sa palette végétale, de mettre ce qui fonctionne. Voilà, parce que souvent les plantes avec trop de gris-gris, voilà, c'est souvent plus fragile. Donc là, non, on privilégie le long terme. L'entreprise, ça fait 32 ans qu'ils plantent, donc on sait ce qui marche, ce qui marche pas. Voilà, après, même si ça a tendance à se réchauffer, de temps en temps, il y a des gros coups de gel, donc faut pas s'enflammer sur les plantations. Ouais.
Et vous préférez travailler sur un rond-point ou dans un jardin?
C'est pas pareil. Il y a une certaine fierté de travailler sur des lieux publics. Voilà, on a de la reconnaissance au grand public. Après, c'est pas le même job, c'est pas la même fonction, quoi. Là, on est que sur de l'esthétique. Chez un particulier, c'est notre cœur de métier. On travaille 80% du privé, que ce soit particulier ou entreprise. Après, les marchés publics, on n'a pas trop envie de s'y attaquer. Voilà, c'est pas notre stratégie, on va dire. Mais non, c'est bien de faire un peu de tout, quoi. Là, il y a un peu de reconnaissance, un peu de... C'est pas pareil. Et ce qui est agréable dans le métier de paysagiste, voilà, c'est... on a un travail varié, chaque chantier est différent. Que ça soit axé pour un même boulot, hein, que ça soit l'axé... l'environnement, voilà, public, privé, il n'y a rien qui se ressemble. Donc on fait ce métier parce que c'est varié, voilà, les saisons changent, c'est un beau métier. Avec le département, en fait, par rapport à la sécurité est très importante, parce qu'il y a des voitures qui peuvent arriver assez vite, et donc il y a des zones interdites, donc on pourra nous reprocher que ça soit tout condensé dans un...
Oui, il faut qu'une voiture puisse avoir un accident sans rentrer dans les sculptures.
Voilà. Donc là, il y a un peu de relief. Si elle va tout droit en descendant de Luc, ben voilà, elle va éviter, j'espère, les statues. pareil en venant d'Audi. Voilà, chaque entrée, il y a une zone de sécurité interdite à tout obstacle dangereux. Et si jamais voilà, il y a quelque chose qui traverse quand même dans les statues, il faut savoir qu'il y a eu une étude pour les goujons quand même. Tout ce qui est ancrage des statues dans le béton,
si, faut que ça casse. Si...
Voilà. Donc voilà. C'est. C'est. Ça va, ça casse pas comme ça, mais voilà. En cas d'accident, ça doit rompre. Quoi. Faut pas que ça soit un obstacle qui tuera quelqu'un. Quoi.
Ah, c'est intéressant. Donc il y a même des normes pour vous. Là.
Ouais, oui. Non, on n'est pas que des bricoleurs jardiniers. Paysagistes, c'est un vrai métier. Ouais.
Un peu de quelques éléments de communication sur l'entreprise. Où est-ce qu'on vous trouve? Comment on vous contacte?
On a un joli site internet, joli, voilà, qui nous permet d'avoir une vitrine, on va dire. Mais c'est plutôt sous le système d'une galerie photo. Pour une fois qu'on est en cours de faire un devis, voilà, on peut dire allez voir la galerie, comme ça vous. Entre tel ou tel revêtement de sol ou tel massif, voilà, il y a. Mais c'est pas tant pour trouver des prospects, non, c'est. Voilà, non, il y a.
Alors comment on vous trouve? On vous connaît.
Faut. Ouais, de le meilleur, c'est le bouche à oreille. Non, on a énormément de clients de bouche à oreille.
Valdrome Paysage, parce que vous êtes à Valdrome ou parce que vous gérez tout le Val-de-Drôme?
Non, ouais, voilà, c'est Val-de-Drôme, on nous l'a fait souvent celle-là.
Bah oui.
C'est. Non, on est basé à Oust. On a toujours. Mais c'est le Val-de-Drôme. Mais bon, il y a un paquet d'entreprises, Val-de-Drôme quelque chose.
Loïc, merci.
Bah de rien.
Belle journée, bon
au
courage.
Au plaisir, ouais.
On va attendre de vider la bouche.
Bon appétit, Bernard, lui.
Merci.
Sur le rond-point de Rokubo, j'imagine que le département a, non pas un rôle, mais en tout cas une observation à avoir sur cette départementale et ses ronds-points.
Ben, ça a été une opération de longue haleine, puis ça fait une dizaine d'années qu'on a commencé avec les ronds-points de la Clairette, avec un partenariat avec le syndicat de la Clairette remontant la vallée. On s'était arrêté à 10 et l'objectif était d'aller plus haut, et donc ça fait quelques années qu'on est nombreux à dire il faut continuer et aller sur Rokubo voir Luc et puis sur Châtillon de l'autre côté. Aujourd'hui on y arrive et le département effectivement a marqué le coup sur ce rond-point en investissant 50%, en subventionnant 50% de la réalisation, puisque je crois qu'on met 18 500 euros de mémoire.
Sur celui de Rokubo.
Sur celui de Rokubo, sur 37 000 euros. C'est un des ronds-points qui aura été le mieux financé par le département.
Pourquoi cela?
C'est un concours de circonstances. Il fallait peut-être donner le coup de pouce pour pouvoir le faire, parce que ailleurs il y avait des partenariats avec la communauté des communes et les communes. Lorsqu'on a la commune de Die, elle n'a pas la même superficie financière que la commune de Rokubo. Donc c'était logique que le département aide plus que ce qu'on avait pu faire sur Die.
Ça va être le cas aussi pour celui de Solor ou de Châtillon?
Alors chaque chose en son temps. On va avancer au fur et à mesure des demandes. On a un partenariat avec le syndicat de la Clairette, et donc on discute chaque fois le bout de gras, comme on dit, mais on a toujours une attention particulière sur ce qui se fait sur l'arrière-pays.
Et est-ce que vous avez pu, quelque part, mesurer un peu l'impact au niveau du département de cette nouvelle route de la Clairette et de ces ronds-points aménagés?
Non, on n'a pas de chiffres là-dessus. On voit la circulation, on a des compteurs de circulation, mais on ne sait pas si c'est lié à ça ou pas. Aujourd'hui, au niveau du département, on a une volonté d'aménager les routes avec un côté touristique. On le voit avec ce qui va être fait sur les routes sublimes du Vercors, dans un projet dans lequel on va intégrer aussi l'aménagement qui va être fait sur le Claps de Luc. Donc c'est quand même un aménagement non pas que routier, mais aussi touristique. Le but, c'est pas d'amener des milliers de personnes en plus, mais d'être en plus en sécurité sur nos routes et d'amener un plus pour que les gens contemplent nos paysages et découvrent et aient envie de s'arrêter.
C'est-à-dire donc plus d'arrêts, des belvédères, des...
Exactement, c'est comme ça qu'est conçu le projet sur Luc. Et c'est aussi, ça permet aux gens de se poser, de rester peut-être 2-3 jours, d'itinérer. Puisqu'aujourd'hui, on sait qu'on a des publics qui sont plutôt nomades. On n'a plus de personnes qui restent 3 semaines en vacances dans le Diois. Mais l'idée, c'est de les garder peut-être une semaine ou 15 jours dans le Diois en faisant des circuits aménagés, touristiques. Et donc de travailler avec l'agence de développement touristique aussi, départementale là-dessus. Et puis bien sûr... tout ce qui est local.
Ah, peut-être pour terminer justement, puisque je vous tiens, c'est, on peut avoir un peu la primeur de qu'est-ce qui va se passer au CLAPS.
Alors la primeur, on a eu un avant-projet qui a été présenté la semaine passée. Bon, on sait que ça a un coût, hein. Donc maintenant il va falloir phaser les opérations, aller à la recherche des financements et voir qui peut être le porteur de projet, puisque on imagine bien que la commune de Luc, toute seule avec ses services administratifs, aura peut-être du mal à porter le projet. Donc on travaille actuellement avec la communauté des communes et bien sûr le département pour pouvoir phaser les opérations. C'est quelque chose qui, je l'espère, devrait débuter en 2023. Il va y avoir 3 ans de chantier, donc avec l'aménagement de belvédères, de passerelles, pour que les gens en sécurité puissent prendre des photos et non pas être au milieu de la route. Voilà, donc je pense que c'est un très beau projet qui a été relancé par la mairie de Luc. C'est le 3e projet qu'on relance, hein, puisque mon prédécesseur, Charlemont, j'étais à l'initiative d'un premier projet. Moi, quand j'ai été élu en 2004, le projet de Charlemont, j'avais été refusé à l'époque par la DREAL. On a réinitié un projet en 2011, à nouveau, il a été refusé. Aujourd'hui, on a pu mettre autour de la table et la DREAL et l'architecte des bâtiments de France dès le début des esquisses, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui, c'est un projet qui est plutôt consensuel et qui, je l'espère, devrait aboutir.
Mais je l'espère, il y a encore une...
Vous savez, tant qu'on n'a pas posé la première pierre, on n'est jamais sûr du coup. Hein.
Voilà, il y en a plein des pierres là-bas.
J'ai tellement été échaudé sur ce projet-là, comme je vous le dis, ça fait 25 ans qu'on en parle, qu'aujourd'hui, j'espère qu'il va aboutir. On va tout faire pour qu'il aboutisse. Voilà, bon, après, aujourd'hui, on est quand même dans la phase finale de l'approche. On va phaser les travaux, on va rechercher les financements. Je pense qu'aujourd'hui, on est à nouveau dans une bonne période pour trouver les financements. On le voit avec tout ce qui est argent public qui est mis sur la table, que ce soit par l'État ou les collectivités territoriales. Donc j'ai bon espoir. Mmh. Voilà. Et là où il y a une volonté, il y a un chemin. Ou vice-versa.
Le maire de Rocoubeau. Salut Jean-Pierre, maire de Rocoubeau, donc Jean Sac. Ce nouveau rond-point, qu'est-ce que tu en penses ?
Eh bien, j'en pense que pour nous, ça va être que du bonheur. Hein, donc, le jour où j'ai rencontré, on inaugurait l'aménagement qui a été fait à Vercheny dans le cadre de la Clairette, j'ai rencontré M. Chipon, le sculpteur, et on a parlé du projet de Rocoubeau. Et moi, je lui ai dit, écoutez, c'est très très bien, mais il faudrait mettre du pastoralisme. Il m'a dit, ce qu'il a dit tout à l'heure, j'ai mon idée, vous inquiétez pas, je m'en occupe. Et aujourd'hui, on voit que le résultat est là. Et
ça, c'était votre seule demande à Rocoubeau ?
Oui, pastoralisme. Voilà. Bon, après, bien sûr...
Comment s'est passé avec le syndicat de l'éclat ? Parce qu'eux, ils avaient un autre objectif.
Non, mais ça s'est très très bien passé. C'est, bon, comme l'a rappelé le président, le coprésident Fabien, c'est... Fabien, comme il l'a rappelé, c'était de dire, voilà, on peut diversifier, et bon, et le Odiwa, c'est quand même le pastoralisme. Et puis nous, on donne un clin d'œil aussi à notre ancien maire de Rocoubeau-Jansa, qui a été président du département, qui a été, voilà, Charles Monge, qui avait des fonctions avec la Fédération Ovine, à haut niveau.
Dont le fils d'ailleurs a encore des...
Voilà, François est toujours d'actualité, il a toujours su les traces de son papa, et à Rocoubeau, nous, c'est le pastoralisme. Voilà. Et puis on a, en haut du village aussi, on a la statue du berger, qui pour nous est un emblème. Voilà. Mais là, bon, aujourd'hui, c'est pas terminé, il va y avoir un peu de verdure, il va y avoir de l'éclairage qui va être mis aussi, et le paysage est magnifique, voilà.
Et alors, j'entendais dire que ben, du coup, maintenant, l'entretien va revenir à la commune.
Oui, exact. Donc jusqu'à maintenant, on avait une fleur du département qui s'occupait d'entretenir le rond-point. Et là, tout est remis à plat et c'est la commune qui va prendre en charge cet entretien. Bon, c'est pas énorme. Hein. Et puis, on va confier ça à les AT de Rocoubeau-Jansa, qui a déjà plein de contrats avec la commune, pour tout ce qui est espace vert, tout ce qui est communal. On a un contrat à l'année sur devis, hein, et on va leur confier l'entretien du rond-point. Voilà. Ben bon, ça va bien se passer.
Bon. Merci Jean-Pierre.
Ben, merci à toi. Merci à Radio Dubois.
Avant de chanter ma vie, de faire des harangues dans ma gueule de bois, j'ai tourné cette fois ma langue. Je suis issu de gens qui n'étaient pas du genre sobre. On compte que j'eus la tête au jus d'octobre. Mes parents ont dû me trouver au pied d'une souche, et non dans un chou, comme ces gens plus ou moins louches. gauche en guise de sang aux noblesses sans pareille. Il coule en mon cœur la chaude liqueur, la treille. Quand on éteint ça, j'ai qu'on a dû savoir boire. On se garde à vue en cas de soif, une poire, une poire ou deux, mais en forme de bonbonne. Au ventre replet, rempli du bon lait de l'automne. Jadis aux enfers, certes il a souffert tantal, quand l'eau refusa d'arroser ses amygdales. Assoiffé d'eau, c'est triste mais faux bien dire que l'être de vin, c'est encore 20 fois pire. Hélas, il ne pleut jamais du gros bleu qui tâche. Qu'elle donne du vin, j'irai traire enfin les vaches. Que vienne le temps du vin coulant dans la Seine. Les gens par milliers courront y noyer leur peine.